allez commencer là, bah, avec ce texte. Bonsoir à vous. Merci d'avoir répondu à l'invitation du festival Passeurs de Monde ce soir pour cette rencontre ici à l'espace Mendès France, que je remercie de nous accueillir dans le cadre d'une coopération qui s'accentue entre le Centre du Livre et de la Lecture et l'espace Mendès France. Donc, merci d'accueillir pour la première fois un moment de cette manifestation qui se déroule dans toute la région Poitou-Charentes, qui a commencé le 13 octobre et qui se terminera à la fin de cette semaine. Je remercie également la librairie La Belle Aventure qui est avec nous ce soir, partenaire également de cette rencontre et partenaire du festival plus généralement, et qui propose une très belle table de livres à la sortie en lien avec le sujet que nous allons traiter ce soir avec nos invités. Alors, je vous remercie également d'avoir accepté de participer à ce moment, cet échange, ce dialogue qui va avoir lieu autour de ce thème que nous avons intitulé « Utopie et premier socialisme au XIXe siècle ». Donc deux invités réunis autour de Catherine Portevin, qui est journaliste à Télérama depuis de nombreuses années, qui s'occupe en particulier des dossiers spéciaux qui paraissent régulièrement publiés par Télérama. Donc merci à Catherine, merci à Nathalie Brément d'avoir accepté également d'être présente ce soir. Je laisserai Catherine vous présenter et vous allez nous guider à l'intérieur de cette bibliothèque virtuelle sur les premiers socialismes que nous avons la chance d'avoir à Poitiers. On ne le sait pas toujours, donc c'est un lieu de ressources, de richesses à découvrir. Puis enfin, merci à Eric Azan, qui est notre invité depuis plusieurs jours et qui brave vaillamment les virus et qui se sont installés. Donc je remercie doublement, parce que je sais que ce n'est pas très facile. Il est avec nous depuis samedi. Alors, Eric Azan est l'un des éditeurs qui est mis à l'honneur de cette année, puisque le principe du festival Passeurs de Monde, c'est non seulement d'inviter des auteurs, écrivains, auteurs de littérature, de bande dessinée, de littérature jeunesse le plus souvent, mais également, et qui viennent de France ou d'ailleurs, mais également des éditeurs. Donc chaque année, nous essayons d'attirer l'attention, de braquer les projecteurs sur quelques maisons d'édition singulières, de vraies maisons d'édition. Qu'est-ce qu'une vraie maison d'édition ? Je crois que ce sont en général, ce sont des maisons d'édition indépendantes, très souvent aujourd'hui, qui ont une ligne éditoriale très affirmée, qui font des choix. Donc, c'est tout ce que l'on trouve en particulier à La Fabrique et également chez deux autres éditeurs qui sont présentés dans le cadre de ce programme. Le magnifique catalogue de littérature et de culture arabe réuni au sein de Sinbad, qui est aujourd'hui intégré à Actes Sud, et également une petite maison d'édition qui est basée en Auvergne, qui s'appelle Bleu Autour. Et ces maisons ont pour point commun, de consacrer une partie de leur production à des textes, des ouvrages qui sont en lien avec la Méditerranée, qui est notre thème de cette année. Alors ce soir, on a un peu tordu la thématique, mais l'occasion était trop belle tout de même, même si on ne va pas du tout parler de Méditerranée ce soir, ou très peu en tout cas, je pense. Eric Azan est notre invité parce qu'il a une partie de son catalogue très marquée par un certain nombre de livres. Il était encore cet après-midi à l'université de Poitiers avec l'un de ses auteurs israéliens, Eyal Weizman. Et donc c'est pour cette partie de ce catalogue, effectivement, que La Fabrique trouve sa place. Mais l'occasion était quand même trop belle d'imaginer aussi un moment autour de cette thématique, puisque, et là je vais céder très vite la parole, il y a ce fonds spécialisé à Poitiers et que vous avez aussi au sein de votre catalogue une partie de vos publications qui sont reliées à des textes du XIXe siècle qui peuvent illustrer cette thématique. Donc voilà, pour expliquer l'organisation de cette soirée. Je rappelle très rapidement que le festival n'est pas terminé, qu'au-delà de cette soirée il y a d'autres rencontres et en particulier à Poitiers. Je vous donne rendez-vous dans cette belle librairie, La Belle Aventure, mercredi soir, avec ce sera forcément un très très beau moment avec Rosie Pinagel-Puech, qui est à la fois auteur chez Bleu Autour, en particulier dans cette petite maison d'édition en Auvergne, qui est traductrice, à la fois traductrice du turc, puisqu'elle est née à Istanbul, mais également de l'hébreu, puisqu'elle est responsable de la collection des lettres hébraïques chez Actes Sud. Elle a traduit de nombreux auteurs contemporains parmi les meilleurs qui écrivent dans cette langue. Et elle est auteure, éditrice, traductrice. Et elle sera donc dans la librairie de Christine Drugman, qui est là avec nous ce soir, mercredi. Voilà. Et puis, dernière chose, il y a un concours de lecture et d'écriture auquel vous pouvez participer, et vous pouvez... Il suffit de lire et d'écrire sur vos lectures et vous pouvez gagner des carnets de chèques lire de 100 € à dépenser ensuite dans les bonnes librairies du Poitou-Charentes. Donc ça, je vous renvoie au programme général. Et un dernier mot sur la minute de poésie, puisque ça n'a pas grand-chose à voir avec cette soirée, mais encore que, la minute de poésie du Centre du Livre et de la Lecture, qui, je vous ai laissé les petites cartes postales, pour vous inviter à vous inscrire, c'est tout simple, hein, il suffit de laisser vos coordonnées mail pour recevoir, et donc sur le site vous inscrivez sur le site du Centre du Livre et de la Lecture, et vous recevrez chaque semaine un poème d'un auteur lié à la région, de toute période, ça va du Moyen-Âge à la période contemporaine, ou d'un poète publié par un éditeur de la région. Voilà, je ne veux pas être trop longue, donc je m'arrête là. Belle soirée à vous, et puis je cède la place à Catherine et à nos invités.
Merci Sylviane. Alors Sylviane vous a déjà à peu près tout dit, des raisons pour lesquelles nous sommes ici. Donc effectivement, c'est l'existence de ce fonds à la bibliothèque universitaire de Poitiers, et de l'existence de cette bibliothèque virtuelle que Nathalie Brément va nous présenter, qui fait à la fois le prétexte, l'occasion et le fond même de notre discussion. Donc simplement pour préciser un peu les choses, mais qui vont être évidemment précisées, peut-être contredites par mes invités, ce qu'on appelle premier socialisme, c'est son premier par la chronologie essentiellement, c'est ce qu'on appelle usuellement le premier socialisme, c'est-à-dire le socialisme d'avant Marx. Globalement, avant la révolution de 48 en France, avant la publication du manifeste du Parti communiste en 1847. À ce moment-là, dans les années 20-30, la France vit la restauration, c'est une période de réaction qui vont aboutir aux journées de juillet 1830. Et c'est surtout à cette époque-là que la pensée de ces premiers socialistes a jailli et a pu essaimer. Bien que certains d'entre eux aient connu le XIXe siècle dans tous ses soubresauts, y compris jusqu'à la Commune. Mais ils ne sont pas pour autant, même s'ils sont premiers, ils ne sont pas pour autant les sources ni les inspirateurs de Marx, loin s'en faut. Encore moins ses maîtres à penser. Marx et Engels ont même qualifié les Proudhon, Fourier, Céphalenster, Étienne Cabet et sa cité idéale en Icarie, et même les Saint-Simoniens, de socialisme utopique. Donc si nous parlons d'utopie aujourd'hui associée au premier socialisme, c'est bien à Marx qu'on le doit. Il faut croire que ce n'était pas forcément un compliment au socialisme utopique. Marx et Engels opposaient le mouvement réel du socialisme scientifique. Alors il reste peut-être quelques traces de cette opposition qu'on peut remettre éventuellement en question. Peut-être nos invités la remettront en question, ou l'atténueront, ou la contrediront. On peut dire quand même qu'il reste des traces de cette opposition entre les utopistes, qui pourraient être aujourd'hui les libertaires, les anarchistes peut-être, et les révolutionnaires, c'est-à-dire ceux qui croient tout de même que finalement l'insurrection est la seule politique révolutionnaire opérante. Je caricature, je simplifie, c'est exprès, ne vous inquiétez pas, tout ça va être éclairé par nos deux invités. Je fais juste un petit zoom sur le terme d'utopie qui va nous accompagner pendant tout ce débat. J'ai fait la chose que tout le monde fait maintenant à chaque fois qu'on cherche un mot. Je l'ai mis sur Google. Et alors Google, si on googlise utopie, arrive en tête Thomas More. Thomas More, c'était un philosophe anglais de la fin du XVe siècle. cette époque des grandes découvertes des nouveaux mondes. C'est à lui qu'a attribué l'invention de ce terme utopie, lieu de la cité idéale, un mot formé à la fois sur le atopia, c'est-à-dire sans lieu réel, et le utopia, lieu du bonheur. Après Thomas More, dans la liste de Google, on tombe sur, non pas Fourier, non pas Étienne Cabet, mais sur utopie.com, une agence qui se donne pour charge de promouvoir la responsabilité sociale et le développement durable auprès des entreprises. Et enfin, utopie.fr, un site dédié à la science-fiction, la fantasy ou le fantastique. Voilà, alors on ne prendra pas ici Google au mot, bien que Eric sache très bien parler des mots et de ce qu'ils veulent dire, sauf pour remarquer que, sans surprise, Google restitue les lieux communs de notre temps en faisant d'utopie un de ces mots caoutchouc qu'Auguste Blanqui voyait dans le mot démocratie, c'est-à-dire l'utopie n'est plus dangereuse, elle n'est certainement plus politique, elle reste à la frontière du possible et l'imaginable, de l'imaginaire. Elle a donc un brin de supplément d'âme dans le développement durable, contre lequel je n'ai évidemment rien, ou elle est réfugiée dans la fiction, contre laquelle je n'ai évidemment rien non plus, comme si peut-être nos utopies aujourd'hui, notre possibilité d'invoquer d'autres mondes, ne pouvaient être tolérables que virtuellement. Nous reviendrons bien sûr sur tous ces thèmes avec nos deux invités, que Sylviane a déjà présentés, mais que je vous représente. Donc à ma gauche, Nathalie Brément, qui est historienne, directrice à la Bibliothèque universitaire de Poitiers de la Bibliothèque virtuelle sur les premiers socialismes, qu'elle va nous présenter. Et elle a notamment publié un ouvrage sur les socialismes et l'enfance, aux presses universitaires de Rennes, que je vous recommande, qui est à la sortie, parce que cette table de libraire est particulièrement bien faite et bien fournie. Et à ma droite, l'éditeur et écrivain Eric Azan, qui est fondateur des éditions La Fabrique, en 1998, et une partie de son catalogue est consacrée à la publication des textes révolutionnaires du XIXe siècle, chaque fois introduits et commentés, ce qui en fait aussi l'intérêt. Donc il expliquera comment et pourquoi il a eu cette initiative. On n'y trouve pas forcément que des premiers socialistes utopiques, même pas tellement. Finalement, on trouve aussi Blanqui, Marx et Engels. Il nous racontera en quoi cette mise à disposition de ces textes souvent occultés est l'acte d'un éditeur militant. Mais donc, pour commencer, commençons avec le réel, le concret des textes et des documents. Nathalie Brément, est-ce que vous pourriez nous montrer un peu cette bibliothèque virtuelle, raconter peut-être un peu son histoire?
Ben oui. oui, bonsoir. Donc, je vais vous présenter cette bibliothèque virtuelle qui est donc... qui dépend de l'Université de Poitiers, qui a été faite dans le cadre du service commun de documentation de l'Université de Poitiers. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est en vous la montrant, tout simplement. Donc, pour la consulter, il suffit d'aller sur le site de l'Université de Poitiers, sur le service commun de documentation, c'est-à-dire les bibliothèques, en fait. Voilà. Et donc, ici, vous voyez écrit « bibliothèque numérique », il faut cliquer ici, et vous avez accès à plusieurs choses qui sont sous forme numérique. Et en premier, vous avez donc l'icône de la bibliothèque virtuelle sur les premiers socialismes. Voilà. Alors, cette icône, c'est la représentation d'un phalanstère, parce que c'est vrai que le phalanstère, c'est quand même ce qui représente peut-être le plus l'idée des premiers socialistes, des socialistes utopiques de cette époque. Bon, là, c'est un petit peu lent, il faut reconnaître. Voilà. Donc là, on arrive sur la bibliothèque virtuelle sur les premiers socialismes. Alors, pourquoi elle s'appelle les premiers socialismes et pas les socialistes utopiques? Ben parce que c'est vrai que c'est un petit peu une tendance maintenant, récemment, de ne plus utiliser l'expression socialiste utopique, parce que c'est une expression qui a été beaucoup utilisée donc au 19e et en particulier à partir des marxistes, pour dire que tout ce qu'il y avait avant, ce n'était pas vraiment le vrai socialisme, mais c'était quelque chose d'assez irréalisable. C'est vrai aussi que la plupart des socialistes de cette époque ont écrit des ouvrages, des œuvres qui avait la forme d'utopie, en fait, qui décrivait des mondes un peu, pas irréels, mais des cités idéales. Et c'était souvent sous forme d'une littérature qu'on peut appeler, enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce serait trop long, qu'on peut appeler utopique. Et, mais depuis quelques années, depuis quelques temps, on revient quand même à... On arrête un petit peu d'utiliser cette expression. Et l'expression qui émerge, c'est une expression beaucoup plus objective d'un point de vue historique. Bah, c'est tout simplement les premiers socialistes, parce que c'était les premiers socialistes, les socialistes en tant que... signification moderne du socialisme, c'est-à-dire c'est les premiers socialistes qui sont apparus à partir des années 1830, c'est-à-dire le terme socialiste, socialisme, apparaît dans les années 1830 en Angleterre, et puis on a dit que c'était Pierre Leroux, donc un des socialistes, un des premiers socialistes qu'il avait lancé, mais bon, il y a des incertitudes là-dessus, peu importe. Donc voilà pourquoi cette bibliothèque s'appelle « Les premiers socialismes ». Alors, qu'est-ce que c'est cette bibliothèque ? C'est tout simplement une bibliothèque qui vient donc de la bibliothèque universitaire de Poitiers, où se trouve un fonds ancien, très très riche, qui contient énormément d'ouvrages d'avant 1820, c'est la définition d'un fonds ancien. Et dans ce fonds se trouve un fonds qui a été légué par un professeur, c'est d'ailleurs marqué ici, qui s'appelait Auguste Dubois et qui a été professeur d'histoire des doctrines économiques et politiques à Poitiers, à l'université de Poitiers, et qui a légué sa bibliothèque en 1935 à la bibliothèque universitaire. C'était quelqu'un d'assez connu, en particulier il a créé la revue d'histoire des doctrines économiques, qui aujourd'hui existe encore sous le nom de revue Histoire, Économie, Société, et qui est dirigée par Pierre Chonu. Et ce fonds, c'est un fonds, donc, le fonds de ce Auguste Dubois, c'est un fonds entièrement consacré aux doctrines économiques et politiques. Et à l'intérieur de ce fonds, je vais accélérer parce que je vois que je prends un peu trop le temps, à l'intérieur de ce fonds se trouve un fonds entièrement consacré justement à ce qu'on appelle les socialistes utopiques ou les premiers socialistes maintenant. C'est un fonds d'une extrême richesse. Parce qu'il y a dedans à peu près 500 brochures, parce que vous savez, à l'époque, on publiait énormément de brochures. Il y a des œuvres des auteurs socialistes sous forme de plusieurs éditions. Il y a des choses assez rares. Et ce qui est formidable dans ce fonds aussi, c'est qu'il est complet, c'est-à-dire qu'il est tellement riche qu'on peut, justement, à travers lui, retrouver l'histoire du socialisme. Parce que des fois, on peut avoir des fonds incomplets. Mais là, c'est un fonds assez complet. Donc nous, à la bibliothèque universitaire, en particulier ma collègue qui est responsable de ce fonds ancien et qui n'est pas là ce soir, mais voilà, c'est elle qui a eu l'idée de faire cette bibliothèque virtuelle. Elle a voulu créer une bibliothèque électronique et numériser des ouvrages, parce que c'est une tendance de beaucoup de bibliothèques universitaires maintenant de numériser les ouvrages, ben parce que avec le web aujourd'hui, c'est une chose possible et puis il faut être présent sur le web. Et donc, elle a eu l'idée de numériser ce fonds parce que c'est un fonds donc très original et justement, comme je vous le disais, complet, donc qui permettait de présenter quelque chose de complet. Et son idée assez originale aussi, c'est que la plupart des bibliothèques virtuelles actuellement sont des bibliothèques où on voit des livres comme ça numérisés, mais juste, enfin bon, c'est pas négatif quand je dis ça, mais il y a un accès aux bouquins et voilà. Et ce sont des sortes de catalogues. On trouve le bouquin et puis numérisé et puis voilà. Et puis à côté de ça, l'autre tendance des bibliothèques universitaires maintenant, c'est de faire aussi des expositions virtuelles. C'est-à-dire faire comme des expositions réelles sur des panneaux, mais les faire sur le web. Et l'idée qu'elle a eue et qui est plutôt originale, c'est de faire une bibliothèque virtuelle qui serait à la fois un petit peu comme une exposition. C'est-à-dire qu'on mettrait en ligne des ouvrages entiers. Alors, y compris les tranches, tout, parce qu'il faut aussi penser aux bibliophiles qui sont intéressés quand ils veulent consulter un bouquin, ils veulent savoir quel est le type de couverture, etc., ce genre de choses, ou les tampons là, qu'ils mettaient. Enfin, moi, je ne connais rien du tout à ces choses-là, mais il y a des gens qui sont vraiment très intéressés par ça. Donc, l'idée, c'était de numériser entièrement les livres, mais non pas de les mettre comme ça, sous forme de catalogue ou de liste, mais de les présenter avec un contenu intellectuel autour, de faire comme une sorte d'expo bibliothèque. Et donc, comme moi, j'avais fait, comme je travaille dans cette bibliothèque et que j'ai fait ma thèse sur ces premiers socialistes, elle m'a sollicité pour mettre en place cette bibliothèque virtuelle. Et donc, on présente les ouvrages, vous allez voir, sous forme, avec une espèce d'arborescence, qui commence par une sorte d'explication générale de ce que sont les grands mouvements de pensée de cette époque, et qui nous amène petit à petit jusqu'à l'ouvrage lui-même. Je vais vous montrer. Donc, les premiers socialistes, ce sont différentes écoles socialistes. C'est la particularité, évidemment, il n'y avait pas qu'une seule forme de socialisme, il y en avait pas mal, même il y en avait beaucoup. Et les principaux, c'est donc ces socialistes du début du 19e, ce sont les fourriéristes, c'est-à-dire les partisans des théories de Charles Fourier. Charles Fourier étant mort quand même en 1837. Cabet et le communisme icarien, le socialisme de Pierre Leroux, et on aura aussi peut-être d'autres ouvrages plus tard sur Saint-Simon, sur le saint-simonisme, ou encore sur... j'ai un trou, je ne me rappelle plus. Enfin, bon, tout ça pour dire que c'est une bibliothèque en plus qui est évolutive. C'est-à-dire ce que je vous montre aujourd'hui, c'est ce qu'on a mis en ligne, mais c'est quelque chose qu'on continue tout le temps. On n'a pas tout numérisé et puis tout mis d'un bloc. On rajoute régulièrement des choses. Voilà. Donc, sur la gauche, ici, on a décidé de présenter, non pas tous les premiers socialistes, mais les socialistes de cette époque, par grande pensée, par grande école de pensée. Ensuite, comme je vous disais, il y a une sorte d'arborescence qui va nous mener jusqu'à l'ouvrage. Si on clique, par exemple, sur fourriérisme, on arrive à des thèmes. Pour le fourriérisme, on a choisi ces quatre thèmes parce qu'ils sont révélateurs à la fois de ce qu'était le fourriérisme, de comment il se représentait à l'époque, comment il était présent quoi, sur la scène politique. Et à la fois, il représente aussi le fond. Parce que la difficulté quand même de cette bibliothèque, c'est que vous savez, quand on numérise des ouvrages, quand on travaille en bibliothèque, on ne va pas numériser des choses qui sont déjà sur le web. Parce que ce serait complètement idiot, ça coûte très cher. Voilà. Et en plus, les bibliothèques travaillent toutes entre elles, c'est-à-dire travaillent avec les autres bibliothèques. On ne travaille pas tout seul dans son coin. Vous savez certainement qu'il existe la bibliothèque Gallica, la Bibliothèque nationale de France, qui numérise en masse des tas de documents. Et il se trouve bien sûr que dans Gallica, il y a déjà des ouvrages des premiers socialistes. Il y en a même beaucoup et il y en a de plus en plus parce qu'ils numérisent vraiment en masse. Donc l'idée, c'est quand même que nous, on numérise ce qu'on a, mais il ne faut pas que ce soit déjà dans Gallica parce que, comme je vous dis, ce serait un petit peu un non-sens. Voilà. Donc on travaille en collaboration avec eux, c'est-à-dire qu'on réserve des ouvrages que nous, on numérisera et pas eux. Mais bon, ils en ont déjà quand même pas mal. Et il faut qu'on arrive à faire une sorte de bibliothèque qui permette de donner une idée de ce qu'étaient ces premiers socialistes en présentant nos ouvrages et sans faire des doublons avec Gallica. Donc ça c'est un petit peu la difficulté, c'est à la fois de représenter notre bibliothèque et en même temps de retracer toute l'histoire de ces premiers socialistes. Donc pour le fourriérisme, on a donc retenu le thème des hommes et des femmes. Je vous montre tout de suite à quoi ça va nous amener, à une liste là de personnes dont on met les ouvrages en ligne. Vous remarquerez qu'il y a surtout des hommes et pas beaucoup de femmes. Mais ça, c'est assez général. Voilà. Alors là, il n'y a pas Flora Tristan. Elle était un peu fourriériste, mais on ne peut pas dire qu'elle était absolument... c'est pas ce qui la caractérise. Bon, on n'a pas d'ouvrage de Flora Tristan ici. Ça, c'est les acteurs un petit peu du fourriérisme, parce que dans le fourriérisme, il y avait bien sûr Charles Fourier, mais ça a été un mouvement très, très important par la suite, avec des tas de disciples qui ont diffusé les idées de Fourier. Alors justement, ces idées, on a essayé de regrouper les ouvrages en fonction de thèmes, justement pour que les personnes qui s'intéressent, qui recherchent des choses, puissent retrouver des ouvrages à partir de cette liste de thèmes. Donc, par exemple, je vous montrerai après. Les moyens de diffusion, c'est quelque chose de très important aussi. Pourquoi ? Parce que c'était des gens aussi qui militaient. Alors, je ne pense pas qu'on utilisait ce terme-là, mais c'était quand même ça. Ils étaient présents, surtout par l'intermédiaire de la presse, par des journaux, par des bulletins et par des tas et des tas de petites brochures, des placards qui distribuaient un peu partout. Les almanachs, c'était un procédé pour toucher les classes populaires surtout. Les banquets, ça c'était quelque chose de caractéristique au 19e, c'était ces banquets pour des occasions un petit peu historiques, des anniversaires, des choses comme ça, ou comme on a eu les banquets républicains, il y avait des banquets fourriéristes. Les poésies et les chansons, ça, c'était un mode de propagande très très important, les poésies et les chansons. Donc là, on a des ouvrages numérisés qui présentent des poésies et des chansons. Dernière chose, les expérimentations sociales. Voilà, c'est très important aussi. Pourquoi ? Parce que les fourriéristes, justement, et ça, je pense que c'est important par rapport au débat sur l'utopie, ce n'était pas seulement des gens qui ont inventé des espèces de sociétés pour dans très longtemps, des sociétés idéales. C'est des gens qui voulaient mettre tout de suite en pratique leurs idées. Et ils l'ont fait. Alors, ils l'ont fait avec plus ou moins de réussite, évidemment. Mais ils ont mis des tas de choses en pratique. Alors, ça pouvait aller de toutes petites choses, genre des sociétés mutuelles, des boulangeries sociétaires, ou des associations d'ouvriers, jusqu'à des colonies, des communautés à l'étranger, parce qu'ils allaient dans des endroits qu'ils considéraient un petit peu comme des terres vierges pour essayer d'expérimenter leurs idées. Et ça, c'est vraiment une caractéristique de ces socialistes, c'est que l'utopie, pour eux, c'était pas dans un futur très, très, très éloigné, c'était vraiment des choses qu'ils voulaient mettre tout de suite, immédiatement en place. Voilà. Alors, pour vous montrer toujours mon arborescence, mais je sais pas du tout au niveau du timing si je vais trop vite ou trop lentement. Ouais, ça va. Donc, par exemple, si on prend les moyens de diffusion, c'est un petit peu lent. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Bon. Là, on est obligé de patienter un peu. Donc là, ce que je vous ai montré, en fait, c'est les quatre vignettes qu'on a retenues pour les fourriérismes. Mais je pourrais vous montrer tout à l'heure. Pour le communisme icarien, on a choisi d'autres vignettes parce qu'elles rendent compte à la fois d'un autre contenu de ce qu'on a dans notre fond et aussi d'autres histoires, d'autres réalités. Par exemple, Cabé, c'était quelqu'un qui a écrit son voyage en Icarie, qui était donc, c'est vrai, un roman utopique. Il a eu des disciples, mais c'était surtout des gens de classe beaucoup plus populaire que les fourriéristes. Et il n'a pas eu vraiment de disciples qui ont écrit et qui ont laissé des écrits. Contrairement aux fourriéristes, qui, eux, se recrutaient beaucoup plus dans des classes bourgeoises. C'était souvent des notables, des architectes, des avocats. Et qui, eux, ont laissé énormément d'écrits, des brochures, des bouquins, des livres écrits par des fourriéristes. Il y en a vraiment énormément, énormément. Voilà, c'est revenu. Donc, si je prends, par exemple, les almanachs, il y a des choses un peu plus intéressantes que ça, mais voilà. Si on clique sur almanach et on a un petit texte qui présente ce qu'étaient les almanachs à l'époque. Si on clique sur l'école sociétaire, alors l'école sociétaire, c'était un petit peu... Enfin, c'est ce qui... comment dire, c'était un petit peu l'équivalent du parti fourriériste, mais ce n'était pas un parti, évidemment, mais c'était un peu l'organisation de propagande des idées fourriéristes. Donc, si vous cliquez, vous avez un texte donc, écrit qui présente ce que c'était. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez pas, donc, on n'accède pas au livre directement, mais il y a toute une explication qui vous fait découvrir ce qu'étaient les fourriéristes avant d'aller consulter les documents. Et en dessous, justement, par rapport à l'école sociétaire, en dessous, vous avez une liste de documents qui ont été numérisés et présentés. Donc là, par exemple, l'école sociétaire, il y en a énormément. Pourquoi ? Parce qu'il y avait justement des tas de disciples fourriéristes qui écrivaient des livres, des brochures pour expliquer ce qu'était pour eux la théorie sociétaire. Si on va dans les expérimentations sociales, ben justement, puisqu'on parlait de la Méditerranée, Là, on peut aller sur une page qui parle de l'Union agricole du SIG. C'était un projet de colonisation des fourriéristes en Algérie, de 1846 à 1851, même s'ils sont restés longtemps après, mais disons que ça a été une expérience fourriériste pendant ces années-là. Et ça donne accès à un document sur un banquet, sur un compte-rendu de banquet là-bas, quoi. Voilà. Alors, puisqu'on était à parler des vignettes et des premiers thèmes, je reviens un petit moment à Cabé et au communisme icarien. Oh. Voilà. Donc là, ce sont les thèmes retenus pour Cabé et le communisme icarien. Et là, c'est là qu'on voit que ça reflète vraiment notre fond. Parce que tout à l'heure, il n'y avait pas une vignette Fourier, alors qu'il aurait pu y avoir une vignette Fourier, parce qu'il y a énormément de bouquins de Fourier qui ont été écrits. Mais comme je vous disais tout à l'heure, ils sont surtout dans Gallica. Et donc, nous, on a surtout numérisé des petites choses écrites par les disciples. Alors, quand je parle de petites choses, moi, c'est quelque chose à quoi je tiens beaucoup. C'est que souvent, justement, on numérise en priorité les œuvres importantes, pardon, les ouvrages fondamentaux, des choses comme ça. Et nous, ce qu'on fait, justement, c'est qu'on numérise toutes les petites choses qui ont l'air insignifiantes, mais qui, pour les historiens, sont formidables. Et qu'on découvre justement en étant obligé de se déplacer dans des petites bibliothèques de province, ben nous, le moindre petit placard, la moindre petite brochure, on la numérise parce que de toute façon, pour l'historien, ça, on sait que c'est des sources importantes, même si évidemment, il faut bien sûr consulter le reste. Donc là, Étienne Cabé, il est dominant là-dedans, ben parce que c'est vrai que Cabé, comme je vous disais, il n'a pas eu beaucoup de disciples qui ont écrit des choses. Donc là, il y a la séparation entre ce que Cabé a écrit avant 1840, avant qu'il écrive Voyage en Icarie, et après. Et puis, il y a des documents sur les colonies icariennes aux États-Unis, parce que vous savez peut-être que Cabé et tout un tas de communistes avec lui sont partis créer des colonies icariennes aux États-Unis. Donc là, vous voyez, il y a un long texte parce que, bon, il faut quand même expliquer, c'est un petit peu... Voilà, les Icaries après Cabé, ça c'est une colonie qui a existé à l'époque de Cabé, mais il est mort en 56 là-bas, et ensuite c'est les Icaries après Cabé. Pour le socialisme de Pierre Leroux, ça, ce sont juste des accroches parce qu'on n'a encore rien mis. Donc, c'est là qu'on voit le côté évolutif. Donc, il y aura des textes de Pierre Leroux. On en a énormément qui ne sont pas dans Gallica. Et on aura une revue très, très importante qui s'appelle La Revue Sociale et qui a d'ailleurs été en grande partie financée par Georges Sand. Alors, pour continuer dans ma présentation d'arborescence, je reviens sur mes fourriéristes parce que c'est là qu'on a le plus de choses pour le moment. Donc, si je reprends au hasard les idées, voilà, ça peut encore mettre un petit moment. Ah non. Je prends le thème de l'économie. Je vais juste vous montrer comment on va au plus près du document. Voilà, on clique sur un document. Et là, encore, à ce niveau-là, on a encore une présentation du document. Bon, c'est plus ou moins long. Des fois, c'est très rapide. Des fois, c'est un peu plus long. Ça dépend de quoi parle le document. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que, parce que c'est vrai que c'est quand même assez laborieux d'aller feuilleter, des fois, c'est des ouvrages de 300, 400 pages. Ce qui est surtout intéressant, c'est de dire globalement de quoi ça parle, mais aussi de signaler des petites choses. Parce qu'à l'époque, ils avaient l'art de faire, par exemple, un livre de 300 pages. Alors, il y avait 250 pages, c'était ce qui est écrit sur le titre. Puis dans les 50 dernières pages, il y avait une lettre à lettre à un ministre ou alors un prospectus pour quelque chose. Enfin, il y avait des tas de petites choses à la fin de ces livres. Et si on ne va pas consulter l'ouvrage en lui-même, on passe à côté de ça. Et encore une fois, pour l'historien, ça peut être vraiment intéressant de découvrir une lettre qui a été écrite à un ministre ou à un écrivain à un moment. Et c'est possible en plus de le faire grâce aux index dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc c'est une description du contenu de ces ouvrages qui permet de faire gagner du temps et puis de découvrir, de découvrir ce qu'il y a dans cette bibliothèque. Alors, ça c'est donc ce qu'on découvre juste avant d'accéder à l'ouvrage. Vous remarquerez donc qu'il y a un index à côté. Et là, on passe à la consultation de l'ouvrage. Pas très rapide. Alors, au passage, je vous signale qu'il y a des... qu'en bas aussi, il y a la notice bibliographique du document, faite par des experts. Voilà, donc... C'est bizarre, pourquoi ça traîne comme ça, je sais pas. Voilà. Donc là, on accède directement à l'ouvrage. Là, on est en mode diaporama et donc ça s'affiche comme ça. Voilà, on peut cliquer et puis on feuillette comme ça. Voilà. Alors après, il y a un autre mode de lecture qui est encore mieux, qui est encore plus... qui permet de lire dans de meilleures conditions. C'est le mode galerie. Voilà. Donc ça, pour les personnes qui ne voient pas très bien. Ça, c'est pas normal, ce qui vient de se passer là. Voilà, et là, on feuillette comme ça. Je ne vais peut-être pas m'attarder parce qu'il est quand même assez lent. Je ne voudrais pas qu'on prenne trop de temps. Voilà. Voilà, donc ça, c'était la... Alors bon, j'accélère un peu. En fait, ce que je vous ai montré, c'est téléchargeable. On peut faire des paniers en sélectionnant seulement des morceaux de pages. On télécharge, on imprime, enfin, on fait tout ce qu'on veut. Vous allez peut-être me poser la question de savoir si on peut le lire en mode texte. Alors, pour le moment, c'est que du mode image et on est en train d'ossériser un certain nombre de documents. Je ne vous montre pas pour gagner du temps aussi. Il y en a certains qui sont déjà ossérisés, ce qui signifie qu'on les a en mode texte et qu'on peut faire des recherches dessus. Par exemple, on affiche le document et on cherche un mot dedans. Enfin, je pense que vous connaissez. Et puis voilà, ça nous sort toutes les pages qui contiennent le mot. C'est très intéressant.
Encore beaucoup de temps ?
Non, pas beaucoup. Non. Oui, d'accord, je me dépêche. Donc juste, alors je termine en disant qu'on a mis aussi en place des index voilà, qui permettent de... Et un moteur de recherche qui permet justement de voir si... De faire des recherches et qui est très intéressant pour tout le côté interdisciplinaire parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire... Cette bibliothèque, elle peut ne pas s'adresser qu'à des historiens, mais elle peut aussi s'adresser à tout un tas d'autres gens. Par exemple, des historiens de l'art, parce qu'on a indexé tout ce qui est iconographique, toutes les représentations graphiques qui se trouvent dans la bibliothèque numérique, etc. Je vais peut-être arrêter là si on n'a pas beaucoup de temps. Non, ça va ?
Non, mais c'est un outil formidable que vous avez mis en place et qui sera certainement très, très précieux pour la diffusion. Est-ce que vous avez, vous, en tant qu'historienne qui a travaillé sur les premiers socialistes, une idée de la manière dont ce sujet-là est prisé par les historiens, par les étudiants, je veux dire. Est-ce que c'est une période qu'on étudie encore beaucoup ?
Plus ou moins. Je ne peux pas franchement... oui, il y a pas mal de gens qui travaillent dessus en ce moment, oui. Mais ce n'est pas non plus, je pense, une tendance très générale. Mais il y a quand même y a des associations. Par exemple, il y a l'association d'études fourriéristes qui réunit pas mal d'historiens. Pas que des historiens, d'ailleurs. Il y a le René Scherrer qui en fait partie et qui est philosophe. Oui, je pense, en fait, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu des gens qui travaillaient sur ces socialistes utopiques et qu'il y en a encore, quoi. Mais je peux difficilement savoir si... S'il y en a beaucoup, je
ne
sais pas.
Et René Scherrer, que vous citiez, c'est lui qui a fait l'introduction de ces textes sur l'éducation qui ont été réunis aux éditions La Fabrique sous le titre « Vers une enfance majeure ». D'ailleurs, peut-être, Éric Hazan, vous pourriez nous expliquer quel est le mouvement qui vous a mené à avoir ce souci de diffuser ces textes des révolutionnaires du 19e siècle. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas que les premiers socialistes. Vous avez aussi Blanqui, Marx, Quel a été ce souci?
Ah, c'est un peu personnel, ça. C'est... Je considère que si on veut comprendre le 21e, le 19e est probablement largement aussi intéressant que le 20e. Dans le 19e siècle, moins pollué que le 20e par des événements complètement à la fois effroyables et au fond connexes, le 19e siècle a une pureté dans la ligne qui fait que ça, on en apprend beaucoup avec l'histoire du 19e siècle. Alors, en effet, la plupart des livres de la fabrique, il n'y a guère que ce Fourier-là qui répondrait à la définition de socialisme utopique ou premier socialiste. On n'a pas publié ni Pierre Leroux, ni Cabet, ni Saint-Simon. En revanche, tout de suite après celui-là, tout de suite après ce livre de Fourier, on a publié Blanqui, un gros recueil, 500 pages de textes de Blanqui. Là, c'était difficile, parce qu'il fallait trouver quelqu'un qui connaissent bien. Parce que c'est énorme. Hein, c'est énorme. Les œuvres complètes de Blanqui, c'est énorme.
Il y a une maison... Comme il a passé beaucoup de temps en prison, il a eu le temps d'écrire.
Il a eu le temps d'écrire, oui. Il y a un éditeur qui s'appelait Presse universitaire de Nancy, qui a publié le premier volume de 7 volumes des œuvres complètes. Après le premier, il a fait faillite. Je ne dirais pas qu'il y avait là une liaison de causale claire. Mais enfin, en tout cas, ce premier volume qui est énorme, qui doit faire, je ne sais pas, 800 pages, c'est le premier de 7 volumes. Donc, il fallait trouver quelqu'un. Alors, j'ai eu énormément de mal à trouver la dame qui avait coordonné ce premier volume. Finalement, je suis arrivé à lui mettre la main dessus. Et elle sait tout. Elle sait tout sur Blanqui. Et elle a fait l'introduction et le choix, surtout le choix, et puis il suffit pas de les choisir. Quand on fait un gros volume comme ça avec plein de textes, il faut les mettre en situation. Il s'agit pas de les jeter pêle-mêle comme font des collègues peu scrupuleux.
Qu'on ne citera pas.
Que je ne citerai pas. Donc il faut, c'est un vrai boulot. Ça a été un travail. Elle a dû travailler un an. Et le livre a eu un succès de modéré à moyen. On l'a quand même réimprimé.
Il faut dire que vous soignez aussi vos clins d'œil, enfin vos liens entre le 19e et le 20e siècle, parce que Charles Fourier, Vers une enfance majeure, je ne sais pas si vous avez fait exprès, est sorti en 2006, c'est-à-dire très clairement en réponse aux émeutes de 2005. René Scherrer commence d'ailleurs son introduction en disant « Notre monde est malade de son enfance, il en souffre, il en brûle, de ses voyous, de ses sauvages ou sauvageons, de cette engeance qu'il a créée pourtant et en laquelle il ne se reconnaît plus. » On sent vraiment une façon d'intervenir dans le débat. De la même façon, maintenant, « Il faut des armes » de Blanqui est publié en février 2007, quelques mois avant l'élection de Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est un hasard ?
Non. Ah, l'élection, on n'y pensait pas trop. Mais on sentait bien que ça allait être une époque où le blanquisme allait être d'actualité. Oui. Et on a... Pour que le livre n'apparaisse pas aux yeux de la jeunesse comme un truc du passé un peu poussiéreux, on l'a fait préfacer avant l'introduction de la dame qui sait tout sur Blanqui. On a demandé à un ami d'écrire un texte qui explique l'actualité de Blanqui, qui est très très bien d'ailleurs. Aujourd'hui, ça finit par un récit de manifestation, c'est très bien.
C'est quoi l'actualité de Blanqui pour vous ?
Eh bien, c'est une question intéressante. Parce que Blanqui est un personnage complexe. Il y a chez lui... D'une part, un disons, c'est le côté qui a le plus vieilli, une technique de la prise du pouvoir par l'insurrection, partant de rien, une insurrection, on monte une insurrection, on ne tient pas compte du contexte, on ne tient pas compte du rapport de force, on monte une insurrection avec l'idée qu'elle va gagner et que le peuple suivra. Ça, c'est la partie de... Quand Lénine parle avec mépris du blanquisme, c'est à ça qu'il parle, c'est à ça qu'il fait allusion. Mais admettons que là-dessus, Auguste, il se soit gouré, quoi, au fond, hein, jusqu'à la fin de sa vie. Parce que la dernière fois qu'on l'a mis en prison, c'est en 1870.
Il était très vieux.
Oui, oui, en 1870, il a fait un coup de main sur une caserne de pompiers du boulevard de la Villette. Ils ont pris les armes, ils ont pris la caserne, mais bon, ça n'a pas marché, évidemment. Mais il y a chez lui une... il y a une théorisation de la guerre des rues, ça c'est un peu anecdotique, c'est très amusant parce que ça ressemble assez à... C'est assez complémentaire d'un texte écrit à la même époque par le maréchal Bugeaud, célèbre pour ses massacres en Algérie. Et au fond, le texte de Blanqui et le texte de Bugeaud, ils se correspondent assez bien. Et les deux, d'ailleurs, répondent de façon assez étonnante au livre dont nous avons parlé cet après-midi à la faculté, qui s'appelle « À travers les murs » d'Yael Weissman, qui parle des méthodes de l'armée israélienne dans les territoires occupés. Donc, il y a chez lui ce côté technique de la guerre civile, technique de la guerre des rues, disons, c'est encore anecdotique, mais ce qui est formidable chez lui, c'est l'idée, je vais essayer de synthétiser, c'est pas évident, l'idée que, d'une part, pour la prise du pouvoir, il faut un parti et une organisation militaire, de type militaire. D'ailleurs, vraiment, son instruction pour une prise d'armes, c'est véritablement par fil à droite, demi-tour à gauche, fusil sur... Voilà, c'est des instructions de type militaire. En revanche, virgule, il se refuse absolument à dire ce que, après la prise du pouvoir, il convient de faire. Il dit ça, c'est pas notre affaire, c'est l'affaire du peuple. Donc il y a chez lui ce curieux mélange, à la fois d'un côté insurrectionnel, coup d'État, et une façon de refuser absolument de théoriser la suite, de dire aux gens, voilà, après, ben, on fera ça, on élira une constituante. Non. Non, non, il dit ça, les gens feront comme ils l'entendront.
On peut dire que c'est l'inverse de Fourier, finalement, qui, lui, théorise de comment on va faire, mais qui refuse l'insurrection ou la violence.
Oui, je crois que Blanqui, comme Marx, du reste, avait peut-être pas le mot mépris, n'est peut-être pas bon, mais enfin, ça le faisait rigoler, les cabets, les Proudhons, là, ça le faisait rigoler.
Et vous, ça vous fait rigoler, Nathalie Brément Fourier, peut-être...
Ah non, non, moi non,
non, mais c'est lui. J'ai bien compris que vous non plus. Ça vous fait
pas... Oui, Blanqui, il est plein de sarcasme.
Mais comme Marx, et comme Marx oui. Plus tard, oui, enfin, même, comme... au même moment.
Oui, oui. Mais pas Marx, pas pour Blanqui. Hein.
Non, pour Fourier. Oui.
Marx, il a beaucoup de respect pour Blanqui. Parce que, pour une raison qui est assez simple finalement, c'est que l'expérience du monde ouvrier de Marx, elle a lieu à Paris. Dans les années après son départ d'Allemagne, il est resté 3 ans à Paris et il a plongé dans le milieu ouvrier et les ouvriers avec lesquels il était blanquistes. Donc, pour lui, il voyait bien que c'était quelque chose de très important et de très, très, très implanté en milieu ouvrier.
Néanmoins, la question que je voulais vous poser, c'était qu'est-ce que néanmoins il peut rester d'inspiration dans ces premiers socialismes, dans ce socialisme utopique, qui peut encore nous parler. Alors peut-être en se focalisant par exemple sur un thème que vous avez particulièrement étudié, Nathalie Brément, et qui est aussi le thème des textes que vous avez édités, Éric Cazan. C'est-à-dire le statut de l'enfant, de l'importance accordée à l'éducation, Nathalie, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi est-ce que cette question de l'éducation a été tout le temps au cœur des préoccupations des socialistes ? Et comment ?
Eh bien, justement, parce que c'est un petit peu... Les socialistes... Enfin, je ne vais pas dire utopique, justement. Les premiers socialistes que j'ai étudiés, enfin, j'ai parlé un petit peu de Blanqui, mais pas trop, se positionnent à l'exact opposé de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'ils sont absolument contre l'insurrection, mais ils sont pour un changement radical de société par des moyens pacifiques et graduels et progressifs. Et donc, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, ils sont pour l'expérimentation sociale, c'est-à-dire qu'ils sont par la mise en place d'essais pratiques immédiats et expérimentaux, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord pour non seulement faire des essais pratiques qui ont une valeur d'exemplarité, parce qu'ils sont persuadés que s'ils font des essais pratiques et que ça marche, tout le monde va se rallier à eux, mais en plus, ils sont tout à fait d'accord pour confronter leurs pratiques avec d'autres. C'est-à-dire que, par exemple, on a vu des projets de ce qu'ils appelaient des champs d'asile, des lieux, ça c'était en particulier Victor Considérant, le leader fourriériste, qui avait pour projet de faire se réunir aussi bien des communistes, des fourriéristes, des lerouistes, enfin je ne sais pas comment, si on disait comme ça, je ne crois pas, et de confronter leurs pratiques, ce qui est quand même quelque chose d'assez original, et d'en tirer des conclusions. Et l'originalité de tous ces socialistes utopiques, c'est que, pour répondre à la question, c'est qu'ils faisaient jouer un rôle très très important aux enfants là-dedans. Et aux enfants, je tiens à le dire, dès la naissance, parce qu'on a beaucoup parlé, on parle souvent des pédagogies modernes, des pédagogies nouvelles et tout, mais souvent, ce sont des gens qui ont écrit des choses sur les pédagogies, mais pour les enfants scolarisés. Pour les socialistes utopiques, l'enfant, il est important dès sa naissance, et il représente l'homme de l'avenir, et c'est lui, comme disaient les fourriéristes, qui créera le premier phalanstère. C'est pour ça qu'ils lui font jouer un rôle très très important dans les réalisations pratiques, et ils ont eu beaucoup de projets de réalisation pratique, ils ne les ont pas toutes mis en application, parce que c'est vrai aussi qu'ils ont rencontré un certain nombre d'obstacles, mais ils font jouer un rôle très très important à l'enfant, et en lui faisant jouer ce rôle important, ça serait très long à expliquer, mais c'est ce que j'ai expliqué dans mon livre, il lui donne un statut qui est un statut très moderne en fait, dans le sens où c'est un individu à part entière, très indépendant de son père et de sa mère. C'est un individu qui a des choix, qui a un certain libre arbitre. Si je me lance là-dedans, ça serait un petit peu long à détailler, mais voilà.
Enfin, il commencerait de quand même Fourier, parce qu'il commence directement en disant donc les philosophes sont si confus que leur théorie d'éducation, qu'un de leurs plus fameux oracles, Jean-Jacques Rousseau, n'a pas osé élever ses propres enfants de peur de réussir comme Sénèque et Condillac, dont le premier, avec sa sublimité morale, parvint à former Néron, et le second, avec sa profonde métaphysique, ne forma qu'un oison. La nature, en donnant aux philosophes de pareils soufflets, prouve assez quelle confiance on doit avoir à leur lumière. Et il enchaîne directement, les théories d'éducation philosophique reposent sur les soins du père et de l'instituteur payé, l'enfant réduit à ses...
Tiens, Il manque un mot.
En gros, l'enfant réduit à ses dépendances court les risques. Donc, il faut séparer l'enfant de son père et de l'instituteur.
Non, c'est pas tellement qu'il faut
le
séparer.
On dirait pas ça aujourd'hui. Hein.
On dirait pas ça, mais si vous voulez, quand même, toute l'évolution de la société depuis le 19e, c'est quand même de faire de l'enfant un individu et de lui donner une place. Le statut de l'enfant aujourd'hui, il est quand même très important. Quand même. Donc, aujourd'hui, on peut dire que de plus en plus, on met l'enfant sur le même pied d'égalité que le père ou la mère dans des tas de circonstances. Par exemple, au niveau tout simplement de la déclaration des enfants, de la déclaration universelle. Mais je ne sais plus. Ce que disait justement, ce que disait Fourier, c'est que c'était, c'était une vision extrêmement moderne, même qui est même au-delà de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'était qu'il était pour la famille élective, c'est-à-dire qu'à la limite, si on n'aimait pas son enfant, on pouvait en aimer un autre. Et si un enfant n'aimait pas son père ou sa mère, il pouvait aller se chercher un autre papa ou une autre maman. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très, très poussé dans la liberté individuelle et dans le choix de ce qu'on faisait de sa vie. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est Fourier dans le texte. Après, les fourieristes, bien sûr, ils ont vraiment adapté et ils ont mis de côté tout ce qui était quand même extrêmement poussé, quoi, et un petit peu inapplicable dans la société de l'époque, quoi.
Est-ce que cette primeur donnée à l'éducation, c'est quelque chose aussi que vous avez remarqué dans les grands textes du XIXe siècle, Éric ?
Que moi, je connais que les textes de Fourier sur l'éducation. Les autres, ceux que nous avons édités, l'éducation, c'est pas trop leur affaire. Mais c'est-à-dire qu'encore une fois, on n'a pas édité les premiers socialistes. Mmh. En fait, après Blanqui, moi, ce qui me tenait beaucoup à cœur, c'est de remettre en scène les événements de juin 1848. Parce que c'est un des moments les plus graves, les plus dramatiques de l'histoire de France. N'ayons pas peur des mots. Et la plus ancienne monographie sur les journées de juin 1848, elle est écrite par un type qui s'appelait Marouk, qui l'a écrite dans les années 1880. C'est une affaire qui est complètement occultée, pour une raison qui est simple d'ailleurs. Parce que c'est un moment... C'est une rupture. Avant les journées de juin, il y avait le vieux rêve que la bourgeoisie et le prolétariat, la main dans la main, allaient finir par compléter, par aller au bout de ce qui avait été enclenché pendant la Grande Révolution. Les journées de juillet en 1830, les journées de février 1848 allaient tout à fait dans ce sens-là. C'est-à-dire que, comme d'habitude, c'était les ouvriers qui faisaient la révolution. C'était les ouvriers qui se faisaient trouer la peau et c'était les bourgeois qui prenaient le pouvoir. Alors, on a publié d'abord un texte d'un type qui s'appelait Louis Ménard, qui est un type extraordinaire d'ailleurs, parce qu'il était à la fois chimiste, poète, ces personnages comme on en trouvait à l'époque. Et il a écrit un livre que nous avons publié qui s'appelle Prologue d'une révolution. Et ce qui est très intéressant, c'est que il raconte très bien ce qui s'est passé entre février et juin, c'est-à-dire progressivement, on écarte le peuple des décisions. Et puis finalement, quand il manifeste son mécontentement, eh bien, pendant 4 jours, on le fusille, en fait, 10 000 morts, 15 000 morts. Et cette histoire-là, il la raconte jour par jour. Et c'est vraiment un texte formidable. Et puis on a publié aussi un livre d'un étudiant qui s'appelle Pardigon. Le livre s'appelle Épisode des journées de juin. Alors lui, c'est pas pareil. Lui, c'est pas un historien, c'est un témoin. Il était sur une barricade au Panthéon, entre le Panthéon et la fac de droit. Il est fait prisonnier. Et pendant une semaine, il va de prison en hôpital. On va vous fusiller tout à l'heure. Ah, puis non, on en fusille d'autres, mais pas lui. Alors finalement, et il finit par s'en sortir et raconte cette histoire. Formidable, formidable. Donc les journées de juin, peut-être qu'on a quand même là eu un petit effet. Je veux dire, par là, j'ai l'impression que entre ça, les articles, on est peut-être arrivé à sortir un peu les journées de juin de l'oubli complet. J'ai l'impression, là, pour une fois, peut-être, j'y pense en vous parlant, peut-être qu'il y a eu une petite vibration.
Ça vous fait plaisir, vous?
Ah oui, je pense que c'est un moment essentiel. C'est vraiment un moment très important. C'est un moment tragique et c'est une rupture. C'est une vraie rupture. D'ailleurs, je peux encore.
Oui,
voilà. Après, on a publié l'an dernier Histoire d'un crime de Victor Hugo. Histoire d'un crime, c'est l'histoire de Hugo qui raconte à la première personne comme pas un témoin, mais un acteur de premier plan, le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851. Histoire d'un crime. Et Hugo, avec ses copains, ils essayent de soulever le Faubourg Saint-Antoine. Parce que le Faubourg Saint-Antoine, à Paris, c'est toujours le lieu des révolutions, le lieu où tout démarre. Donc, ils se disent, on va aller soulever le Faubourg Saint-Antoine. Et là, ça ne marche pas du tout. Les ouvriers lui disent, vous savez, on vous aime bien, on vous admire, on est de cœur avec vous, mais on n'ira pas. Parce que quand même, il ne faut pas oublier que ça ne fait pas longtemps, ça fait 3 ans, que vous nous avez fait, vous, les députés, les mêmes, ceux-là, de cette assemblée-là, vous nous avez fait mitrailler, tirer dessus, massacrer. Donc, bravo, mais on n'y va pas. Donc, c'est vraiment très lié. Je pense que s'il n'y avait pas eu ces journées de juin 48, le coup d'État de Louis-Napoléon n'aurait jamais pu fonctionner. D'ailleurs, là-dessus, il y a un texte indispensable qui est le 18 Brumaire de Louis Bonaparte de Marx, qui explique tout ça parfaitement bien. Il l'écrit quelques années après. C'est comme si aujourd'hui, je sais pas moi, quelqu'un écrivait la défaite de Jospin en 2002.
Mais justement, quand on écoute ce moment de 48 qui a quand même été une rupture historique très importante, en vous écoutant, je me demandais finalement quel rapport il y a avec tous ces événements-là et le mouvement ouvrier à ce moment-là et ces premiers socialismes. On a l'impression que ce sont deux mondes qui sont quand même très éloignés. C'est pas votre impression, Nathalie ?
Le roux, non.
Le roux, il n'est pas
avec les fusilleurs. Il n'est pas non plus sur les barricades, mais plutôt sympathisant, n'est-ce pas?
Oui.
Non, mais sans être opposant, ils sont un peu ailleurs, quoi.
Ben, justement,
lui,
je pense
pas tant que ça.
Je pense que justement, en ce moment.
Député.
Il y a justement les travaux récents sur les premiers socialistes montrent justement de plus en plus comme tous ces gens étaient quand même beaucoup plus, pas forcément impliqués, mais beaucoup plus présents, quoi. Bon, pour Cabé et les communistes, au contraire, c'était des gens qui étaient vraiment impliqués, à tel point que c'est pour ça qu'ils ont dû d'ailleurs s'exiler, parce qu'ils étaient représentés comme le diable et accusés de tout ce qui se passait. Les communistes, c'était vraiment en 48 les... Enfin, ils ont été vraiment victimes de répression terrible. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont décidé de partir en Icarie, parce que c'était absolument impossible pour eux de continuer à se battre en France. Alors, en ce qui concerne les fourriéristes, justement, on se rend compte de plus en plus. Bon, les fourriéristes, comme je disais tout à l'heure, c'était quand même pas des gens qui étaient connus des ouvriers, mais surtout des classes, pas forcément supérieures, mais des milieux bourgeois, etc. Et on se rend compte quand même de plus en plus qu'ils ont participé, par exemple, au débat politique. Les fourriéristes, en tant que députés, ça, c'est des choses dont on ne parlait pas tellement avant, parce que justement, il y avait toujours ce côté utopique qui dominait. Mais il y a eu j'exagère un peu, mais il y a eu pas mal de députés. Le premier, c'est Victor Considérant. Mmh. Qui ont été à l'Assemblée et qui étaient des députés qui prenaient des positions, qui ont déposé des tas d'amendements, des projets de loi, etc. Et ça, c'est des choses qu'on est en train de redécouvrir.
Vous pensez qu'en fait, il faudrait arrêter de les classer dans les socialistes utopiques, de renoncer à la dichotomie qui a imposé Marx.
Mais je pense que c'est déjà fait quand même. On en parle de moins en moins comme ça quand même. Hein, vous êtes d'accord?
Oui, Eric.
Oui, oui, oui. Alors, le mot utopie, il est... Quand vous lancez une idée qui sort de la conservation des choses dans leur état, par exemple, vous dites, je pense qu'il faudrait en finir avec le salariat. Deux réponses possibles. Un, c'est complètement utopique. Deux, peut-être pas pour ça, là, mais pour d'autres trucs du même genre, ça nous mène droit au goulag.
Oui, c'est vrai.
C'est deux réponses toutes faites pour une, quand on émet des idées qui vont pas du tout dans le courant principal. Utopie ou goulag. Ou les deux.
Ou les deux, oui.
Ouais, c'est pas incompatible.
Vous personnellement, vous trouvez, qu'est-ce que vous trouvez de nourrissant dans la pensée d'un Fourier, d'un Cabet, d'un Leroux?
Je connais pas si bien que ça, en vérité. Je connais pas plus que beaucoup d'entre nous dans cette salle. J'ai lu Fourier puisqu'on l'a édité. Enfin, j'ai lu Fourier. Fourier, c'est énorme. Hein, c'est... J'ai lu ça et d'autres choses. Chez lui, il y a quelque chose qui est vraiment bien. Quoi. C'est drôle.
C'est vrai,
oui. Ah, oui, c'était un mec.
Vous me parliez qui, aussi de cette fantaisie.
Ah oui, c'était vraiment. Et je pense que c'est voulu. Il n'est pas drôle malgré lui. Je crois qu'il est, consciemment drôle. Hein, ça, c'est vraiment très bien. Les autres? Non, il y a quand même un rêve, quoi. Il y a quand même un rêve formidable. Ces types-là qui sont partis au Texas, c'est quand même une grande leçon pour nous, quoi. Ils ont osé. Je pense que c'est un exemple. C'est intéressant et ils ne se sont pas dégonflés. Ils l'ont fait.
Ils ont dessiné un espoir plutôt qu'une utopie, alors on pourrait dire.
Et Proudhon, vous le mettez comment, Proudhon?
Bah, il fait partie des premiers socialistes, hein, aussi, de toute façon. Alors, je le mets où? Je le mets...
Fichez-le déjà un peu.
Non, mais il est... Vous le mettriez dans la bande.
De toute façon, dans la mesure où on utilise le terme premier socialiste et que ça devient un terme avec une idée chronologique, il n'y a pas de raison de ne pas le mettre.
D'accord.
Proudhon, c'est aussi le premier anarchiste aussi. C'est aussi lui aussi, il a une dimension utopique. Alors ça, justement, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on connaît moins, ça. Mais lui aussi, à l'époque, on a l'impression aussi que ces socialistes, à un moment, ils avaient tous un projet qu'on peut appeler utopique. Mais lui, par exemple, il a eu un projet de banque du peuple.
Oui.
Bon, c'était un crédit généralisé. Oui. Ils ont eu tous, à un moment, des projets comme ça. Et c'est peut-être des utopies, mais c'était des choses extrêmement concrètes et pratiques pour faire... Enfin, je ne connais pas exactement, mais c'était un crédit pour le peuple. Quoi.
Oui, ça ressemblait au microcrédit.
Oui, voilà, c'est ça. C'est...
Qui est à la mode aujourd'hui.
Et puis après, il a eu un projet d'exposition perpétuelle. Enfin, il a eu des projets comme ça qu'il a essayé de mettre en place. Je ne connais pas très bien les détails. Je ne me rappelle plus. Mais lui aussi, il a eu des projets de réalisation concrète, immédiate, pour faire évoluer les choses dans l'instant. Et c'est des projets qui rentrent tout à fait dans le cadre des projets utopiques. Mais par rapport à l'utopie, je voulais dire quand même qu'il y a quelque chose qui a existé et qui a duré quand même une centaine d'années. C'est le Familistère de Guise, dont on a dit beaucoup de choses. Et en fait, parce que bon, ça, c'est quelque chose qui est discuté, mais c'est incontestable que Godin, celui qui a fait le Familistère de Guise, c'était un fourriériste. Alors après, c'est vrai qu'il a, bon, comme la plupart des gens qui ont suivi Fourier, il n'a pas tout pris chez Fourier. Parce que Fourier, c'est une œuvre, comme vous disiez, c'est quelque chose d'immense. Puis il a dit des choses, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a des choses farfelues. Puis il a dit des choses qui ont été vraiment mises de côté, parce que c'était une société, mais absolument radicalement différente de celle de l'époque. Mais... Godin, il a quand même pris des choses qu'il a essayé de mettre en application et il n'a pas toujours réussi, et en particulier à cause du désaccord des ouvriers qu'il avait dans son usine, qui n'étaient pas forcément d'accord, par exemple, pour se répartir les salaires en fonction du mérite. C'est-à-dire qu'il fallait apprendre à voter. Ils voulaient que les ouvriers votent entre eux qui avaient droit à telle prime ou telle prime. Ils voulaient que ce soit une sorte de ce qu'on aurait appelé l'autogestion aujourd'hui et qui se répartissent les bénéfices de l'entreprise en fonction du capital, du travail et du talent. Ça, c'est la définition même de l'économie fourriériste. Et il a essayé de le mettre en place. Il a plus ou moins réussi. D'ailleurs, il a plutôt pas réussi. Mais enfin, il a quand même réussi à mettre en place. Au début, c'était l'association fourriériste qu'il a voulu créer pendant 20 ans. Avec une organisation radicalement prise en charge par les ouvriers eux-mêmes. Il n'a pas réussi. D'ailleurs, entre parenthèses, à un moment, il a essayé avec des enfants, parce que justement, il ne voyait pas d'où encore l'importance accordée aux enfants. Et après, il a évolué vers quelque chose de plus coopératif de production et de consommation, quoi. Et cette, je pense que vous le savez, c'est assez connu, mais ça a existé jusqu'en 1968 avec des côtés vraiment très, très intéressants. Il faut quand même aussi resituer, parce que ça a été critiqué, y compris par les socialistes eux-mêmes qui disaient que bon, c'était une prison parce que les gens vivaient en cercle fermé. Ben forcément, ils vivaient tellement différemment dehors, ils ne pouvaient pas vivre autrement. Puis c'est vrai qu'il y avait des règles un peu difficile parce que comme c'était une société autarcique, il se targuait de ne pas avoir de police. Mais s'il n'y avait pas de police, pourquoi il n'y avait pas de police? Parce que les gens surveillaient entre eux, d'où délation, d'où... Bon, donc il y a eu beaucoup de critiques. Mais en attendant, il y a quand même eu des choses aussi extrêmement intéressantes qui ont été faites au niveau de ce qu'on pourrait appeler l'autogestion aujourd'hui. Et puis, il faut toujours ramener par rapport à l'époque, parce qu'à l'époque, ça se passait en Thiérache, en Picardie, qui était une région mais vraiment extrêmement pauvre, avec un taux d'alcoolisme très, très important. Et les gens qui vivaient au Familistère de Guise, ils vivaient mais 100 000 fois mieux qu'à l'extérieur. Vous me direz, c'est peut-être pas une raison suffisante pour faire n'importe quoi. Mais en attendant, ce qui est sûr, c'est que les Familistériens ne voulaient pas quitter le Familistère. Ils sont tous restés de famille en famille. Enfin, les enfants restaient, etc. Et c'est aussi une des raisons qui a fait que le Familistère, à un moment, est resté trop replié sur lui-même, parce qu'il ne voulait pas partir. Et parce qu'il y avait justement les retraités. Ils avaient une retraite à l'époque où il n'y avait pas de retraite. Justement, c'est le moment d'en parler. Les vieux ne voulaient pas partir. Et donc, c'est devenu une société en vase clos. Donc, il y a eu beaucoup de critiques. Mais n'empêche que moi, je trouve que c'est dommage qu'encore il y a énormément de travail de fait là-bas à Guise. C'est une mémoire qui est en train d'être vraiment mise en valeur. Et c'est bien de se rappeler quand même qu'il y a des choses très, très intéressantes et qui d'ailleurs font penser à beaucoup de choses qu'on essaie de mettre en place aujourd'hui en termes d'économie sociale, d'alternatives, de choses comme ça. Et je rappelle toujours que c'était quand même des principes fourriéristes. Et je pourrais, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais il y a encore plein d'autres choses que je pourrais vous dire sur l'aspect fourriériste de ce qu'il y avait au Familistère de Guise, quoi. En particulier sur l'éducation des enfants, d'ailleurs.
Aujourd'hui, est-ce que l'un et l'autre, vous pouvez voir un héritage de cette pensée de Fourier, de Proudhon, c'est peut-être plus évident, dans les courants politiques, dans des initiatives sociales ou associatives, dans les mouvements d'idées, est-ce qu'il y a quelque chose?
Je crois que les gens qui travaillent en coopérative ouvrière de production, c'est du Proudhon, ça. Il y en a, non?
Si, si, mais c'est pas que du Proudhon, c'est aussi du Owen, c'est aussi du Fourier.
Oui, enfin, oui.
C'est un peu... Parce qu'il y en a qui étaient plutôt coopératives de production, d'autres plutôt coopératives de consommation, mais on va pas pinailler. C'est sûr que c'est complètement...
Il y a un héritage, une filiation.
Complètement, oui, bien sûr. Oui.
Je pense que chez les anards d'aujourd'hui, ils se réclament de cette tradition-là. Les marxistes, non.
Ça, on a compris.
Ouais.
Mais vraiment pas, du tout.
Ah, vraiment pas, non. Non, non. Marx, Proudhon avait écrit, enfin ça, vous le savez, Proudhon avait écrit un livre qui s'appelait Philosophie de la misère, et Marx lui a répondu, Marx était un killer, hein, il lui a répondu Misère de la philosophie, et c'était
Au revoir.
Au revoir. Ouais, ouais. Non,
chez les écologistes, est-ce que vous pensez dans certains courants écologistes?
Peut-être, oui. Peut-être.
En tout cas, vous êtes tous les deux d'accord pour renoncer à cette appellation socialisme utopique, oui, qui ne veut rien dire finalement.
Oui, oui. C'est dévalorisant dans la mesure où justement utopie, ça veut dire n'importe quoi.
Oui.
Des idées farfelues qui n'ont qu'une chance de... Utopique, aujourd'hui, c'est très dévalorisant.
C'est dévalorisant, et puis surtout, moi je trouve que d'un point de vue historien, c'est stérile. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit ça, il y a plein d'autres choses qu'on ne dit pas, parce qu'ils sont utopiques, donc voilà quoi. Or, justement, on peut dire quand même qu'ils sont, parce que c'est vrai, comme je disais, ils ont écrit des bouquins qui ont une forme utopique. Puis à l'époque, on les appelait comme ça, hein, c'est vrai, à leur époque, hein, il n'y a pas que Marx, hein, de toute façon. Mais une fois qu'on a dit ça, le problème, c'est qu'on ne dit plus rien. Or, il y a des tas de choses à dire, et c'était des gens qui étaient vraiment impliqués sur le terrain, qui ont fait des tas de choses. Voilà, ils n'étaient pas...
pas des purs
esprits, vraiment trop... C'est stérile, et ça restreint vraiment l'approche de ces écoles de pensée, quoi.
Est-ce qu'il y a dans la bibliothèque, c'est presque une parenthèse, mais bon, des textes qui sont issus des sociétés secrètes?
Préciser ce que c'est les sociétés secrètes.
Sous la monarchie de Juillet et avant, sous la Restauration, il vaut mieux dire d'ailleurs dans l'autre sens, Restauration puis monarchie de Juillet, il y a eu énormément de sociétés secrètes dont la matrice en général c'est les Carbonari italiens.
Cabet était Carbonari.
Oui, exactement.
Oui, oui. Et ces sociétés secrètes ont proliféré, en particulier les Rochelais connaissent bien celle qui s'est terminée par la guillotine des quatre sergents, qui était une société secrète, qui faisait partie d'une société secrète. Il y a eu plein... Cette période qu'on représente comme une période plomb-plomb, enrichissez-vous, etc., était une période d'une grande violence dans la répression. On perdait la tête assez facilement. Et ces sociétés secrètes, ça a duré, essentiellement, ça a duré jusque vers 1840. Et il y avait des gens comme Charles Teste, comme Voyer d'Argenson, comme Buonarroti, qui étaient qui organisaient des sociétés secrètes pour la diffusion des idées communistes. Et un jour, la prise du pouvoir à la Blanqui, là, pour le coup.
Mais justement, la plupart des socialistes que moi j'ai étudiés, ils étaient revenus de ça. Et en premier, Cabet d'ailleurs, qui après a complètement renoncé à toute forme de violence, qui a renoncé à toute forme de passage à une société différente par l'insurrection.
Buonarroti, il est intéressant. Il a écrit un livre qui n'est pas formidable, mais qui a eu un énorme retentissement en milieu ouvrier dans les années 1830 sur la conspiration des égaux dite de Babeuf. Et Buonarroti, qui a vécu assez vieux, c'est le chaînon manquant. Enfin, il n'est pas manquant puisqu'il est là. Il était là. Le chaînon, non pas manquant, le chaînon entre Robespierre et Blanqui, si vous voulez. Il fait la jonction. On va essayer de publier son bouquin. Mais il faut quelqu'un qui connaisse très bien cette affaire. Et les auteurs ne pullulent pas sur ce sujet-là. C'est compliqué. Parce que Buonarroti, c'est assez facile de faire sa biographie. Bien qu'il était tout le temps étant société secrète, on ne savait jamais où il était. Il parcourait l'Europe dans tous les sens. Hein. C'était vraiment un dangereux terroriste cosmopolite. Ah oui, indiscutable. Donc on ne savait jamais trop où il était. Enfin, sa biographie, elle est connue. Le bouquin, il parle de lui-même. Mais ce qui serait très difficile à restituer, c'est l'extraordinaire retentissement de ce livre dans les milieux ouvriers révolutionnaires.
je crois que peut-être avant de conclure, peut-être que vous avez des questions à poser, des remarques à faire. Au revoir.
Je voulais vous poser une question sur le fameux ministère de Guise, mais vous avez répondu avant. J'ai dû savoir comment vous le situiez par rapport au premier socialisme, mais vous avez répondu. Donc bon, je vais juste dire qu'effectivement, la restauration, enfin, une restauration, le bâtiment est extraordinaire. Voilà, de
façon. Extraordinaire.
Sinon, il y a même un roman de bande dessinée qui va se faire, qui va sortir bientôt là-dessus.
Ah oui.
Voilà. Non, ma question, c'était qu'en fait... effectivement, vous parliez d'Allard, effectivement, les gens qui sont beaucoup intéressés aux premiers socialistes et n'étant pas historiens, ce sont les Allards, enfin, des mecs comme moi, par exemple. voilà quoi, on connaît tous Proudhon, la propriété Selvoy et compagnie, etc. etc. Bon, en réétudiant cette charnière entre le 18e et le 19e siècle, on se rend compte que ce sont des auteurs qui s'inscrivent dans une passionnante, passionnante, pas lutte des idées, mais enfin, passionnante bouillonnement d'idées politiques qui surgissent sans doute aussi de la Révolution française, mais aussi de la Révolution américaine, puisque quand on lit Saint-Simon, Saint-Simon a passé... a été avec Lafayette aux États-Unis, il en a ramené un peu la trame de sa philosophie, son mode de pensée. Et à les prendre aussi comme des écrivains littérature politique, comme les autres. Mais effectivement, il y a eu Marx entre les deux. Et pour une anecdote, ce matin, j'écoutais France Culture et on parlait du réalisme soviétique, et ça m'a fait bien rire, parce qu'en fait, pour opposer le mot utopie, on met le mot réalisme, voilà. Effectivement, pour même les marxistes des années 30, 1930, pardon, quand on voit ce qu'ils ont produit, c'est aussi... on trouve ça assez ridicule, alors que ce qu'on dit souvent les politiques, c'est passer à l'acte. Il y a beaucoup de théories, beaucoup de débats, mais eux, ils ont passé à l'acte. Et c'est pour ça que c'est extraordinaire. Si les mouvements politiques n'ont pas réussi beaucoup en France, je pense aux Anards, en France, ça s'est vraiment arrêté avec Bono et tout ça. Ils n'ont pas beaucoup passé à l'acte, les Anards. Et on retrouve chez les premiers socialistes ben ça, passage à l'acte. En fait, ce n'est pas une question, excusez-moi. Hein, voilà.
J'avais deux questions. La première, c'était tout au long de vos interventions, moi j'ai repéré une difficulté qui est la difficulté qu'il y avait à situer socialisme premier ou socialiste premier. Est-ce qu'il y a réellement une conceptualisation du monde d'après ? Ou bien alors, dans les utopies, est-ce que c'est le monde d'aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'on vit à côté du capitalisme ? Ou bien alors, est-ce qu'on construit ce qu'il va y avoir après le capitalisme ? C'est la première des questions, parce que c'est toujours très... Est-ce qu'il y a un socialisme premier ? Ou bien alors, on n'a que des expériences qui sont effectivement, qui se conduisent, puisque quand on parle de Godin, par exemple, c'est quand même sur la base de la fortune d'un industriel, et donc c'est quand même difficilement... conceptualisable dans un au-delà dans lequel il n'y aurait plus d'industriels capitalistes. Voilà, c'était la première des questions. Puis la deuxième, c'était plus effectivement sur les liens étroits de l'ensemble de ces socialistes premiers avec la colonisation. Parce qu'il y a quand même effectivement cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on va construire sur un monde qu'on prétend vide. Et on a effectivement aujourd'hui des séquelles qui sont des séquelles de même nature avec toute la mythologie du kibbutz qui est effectivement construite sur la même utopie, c'est-à-dire une grande partie des colons européens vont réaliser ce qu'ils ne font pas chez eux sur des terres qui prétendent vierges. On le fait avec la conquête de l'Amérique, on le fait avec la conquête de l'Algérie, on le fait aussi avec la conquête de la Palestine.
La première question, je ne sais pas trop. La deuxième question, oui, en effet, il y a ce côté, on va dans des endroits où qui sont supposés vides, mais ça n'a pas le même caractère que, disons, la colonisation selon Jules Ferry ou selon Ben Gurion. Parce que c'était quand même des implantations limitées dans l'espace. Et je ne pense pas qu'elles étaient limitées parce que ça ne marchait pas et que ça restait petit. Je ne pense pas qu'il était... Alors là, je ne sais pas. Est-ce que dans leur esprit, si ça marchait, ça allait envahir essaimer dans le pays ?
Ben oui.
Oui.
Ben oui, c'était ça qui les intéressait.
C'était ça, l'idée que ça allait marcher et que... Mm-hmm. Oui. Alors, évidemment, ça ressemble beaucoup.
Enfin, ça dépend. Hein. Kabé et son Ikari, je ne sais pas trop si c'était tellement dans cette optique, mais je suppose que oui. Par contre, les fourriéristes, c'est sûr, ils se sont prononcés contre la colonisation militaire et ils étaient pour une colonisation pacifique par des installations de famille, des fermes sociétaires, qu'en fait, ce n'était pas des phalanstères, parce qu'évidemment, ils ne pouvaient pas créer vraiment des phalanstères. Hein. Tel que décrit par Fourier, mais ils étaient pour une colonisation et en envoyant des familles, en envoyant d'abord des hommes constituer des colonies et ensuite des familles, parce qu'ils se disaient que là-bas, ça serait plus facile justement. Ils étaient tellement convaincus que le système sociétaire c'était le bon, que de toute façon tout le monde suivrait, peu importe que ce soit en Algérie ou ailleurs, quoi. Mais je précise quand même que s'ils allaient à l'étranger, c'est souvent parce qu'ils étaient en exil, ils étaient proscrits, etc. Enfin, bon, ils ne sont pas toujours partis parce que... Comment ?
Peut-être pas pour les Saint-Simoniens qu'on démarche.
Oui. Mais, par exemple, pour l'expérience du Texas dont vous avez parlé tout à l'heure, ils sont allés au Texas parce qu'ils étaient tous exilés après le coup d'État de 51. Et ils se retrouvaient tous à l'étranger. Et l'école sociétaire était complètement disloquée. Et donc, ça a été un moyen de se retrouver aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'ils sont... C'est très ambigu, cette question de colonisation, en fait. Mais eux, ce qui les intéresse, de toute façon, c'est... Parce que la particularité de ces systèmes, c'est que c'est universel. C'est même pas que c'est international, c'est pour tous les hommes. C'est pas une question de révolution internationale permanente, je sais pas quoi. Fourier, il a inventé un système, mais... universel pour tous les hommes, peu importe qu'ils soient de n'importe quel pays. Donc lui, il va en Algérie, enfin pas Fourier, mais ses disciples, ils vont en Algérie, ils vont au Texas, et puis voilà, ils vont mettre en place le futur phalanstère ou ce qui y ressemble, et puis ça va tellement plaire aux autres que ça va essaimer. Mais ils n'ont pas de discours particulier sur les populations autochtones. Bon, voilà. Alors, voilà. Enfin, ils les invitent, mais d'ailleurs, ils utilisent, je ferai remarquer au passage encore, souvent les enfants pour ça. Et je veux juste vous signaler qu'il y a une thèse qui vient d'être écrite, mais pas encore publiée, une énorme thèse de quelqu'un qui s'appelle Jean-Louis Marceau, qu'il a fait à l'École des hautes études en sciences sociales à l'automne. Et c'est sur cette problématique de la colonisation et des Saint-Simoniens, des premiers socialistes. Et il est très critique. Enfin, je crois qu'ils démontrent justement qu'ils ont beaucoup participé.
Les Saint-Simoniens, oui.
Oui, mais pas que les Saint-Simoniens. Mais oui, on sait bien que les Saint-Simoniens, principalement.
Oui.
Moi, je voudrais poser une question. Je connais assez mal les premiers socialismes. Mais je me demande s'il n'y a pas une grande différence entre cette période du 19e siècle et la période qu'on vit actuellement. J'ai l'impression que l'espace politique est assez rempli par une pensée marxiste assez fossilisée. Enfin, au niveau politique, je pense un peu à la LCR ou des syndicats marxistes. Et à côté, on a un bouillonnement intellectuel qu'on peut retrouver en particulier à la Fabrique. Mais j'ai l'impression que l'espace que les gens voient en premier, c'est ce que j'ai toujours vu, c'est cette pensée fossilisée. Quoi. Et je me demande si à l'époque, il n'y avait pas un espace plus grand pour des expérimentations, pour la nouveauté. C'est peut-être la différence entre cette époque et la nôtre. Enfin, je sais pas.
Oui, je pense que... Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Le marxisme fossilisé, est-ce qu'il occupe tant de place que ça? Est-ce que c'est pas une fossilisation générale des concepts? Est-ce que tous les gens qui parlent de changer les choses sont pas prisonniers de l'histoire? Enfin, Dieu sait si. Pour ma part, j'attache de l'importance à l'histoire, mais je pense que, par exemple, les trotskistes sont vraiment complètement prisonniers de leur histoire. Il y a parmi eux des gens formidables, hein, pas du tout fossilisés, des gens très intelligents, très souples, très malins, etc. Mais quand on en vient au cœur du problème, on s'aperçoit qu'au fond, c'est toujours la même histoire qui ressort. Donc, fossiliser... Non, parce que ce sont des gens agiles dans leur tête, mais coincés par l'histoire. Mais est-ce qu'ils représentent dans le milieu dont tu parles, quelle place ils occupent? Ça me paraît très marginal. Je pense que... Enfin, ça dépend. Évidemment, si on cherche des idées du côté du PS... Non,
parce que quand on cherche un engagement de gauche, en fait, l'extrême gauche...
Quand on cherche un engagement de gauche ou l'extrême gauche, on bute sur ce marxisme un peu traditionnel. Oui. Je pense comme toi, oui. Je crois que tu as raison.
Il faut inventer des choses nouvelles, alors.
Ouais, moi j'ai quand même envie d'apporter un tout petit bémol à ce qui vient d'être dit, et y compris dans ta propre maison d'édition. Je veux dire, tu as publié l'année dernière Isabelle Garou, qui est une militante trotskiste,
oui. Hein,
et qui revisite le concept d'idéologie.
Oui.
Daniel Ben Saïd, malheureusement, était déjà décédé quand l'année dernière a été organisé un colloque qu'il avait voulu voir naître, qui s'appelait Puissance du communisme. Et qui a rempli le plus grand amphi de Paris 8 et qui a donné lieu à des débats pendant 2 jours absolument. Alors, je comprends ce que vous dites tous les deux et je suis la première à repérer aussi ça, effectivement. Mais je suis plus d'accord avec la première réponse que tu fais, c'est-à-dire que la fossilisation, il me semble, en tout cas depuis 1 ou 2 ans, elle est plus tant chez les marxistes ou les trotskistes, qui, allons-y, mettons des étiquettes, qui justement essayent de se renouveler, essayent de voir, enfin, je veux dire, la société Louise Michel, que tu dois connaître aussi, c'est génial pour ça,
oui.
C'est des lieux de débat, de rencontres que Daniel Ben Saïd avait voulu aussi, où il y a des anars qui viennent, des gens très, très, très différents. Tous les contacts que tu as pu toi-même avoir avec des marxistes ou des trotskistes. Mais par contre, la fossilisation, elle est dans la société, elle est dans l'espace politique. Elle est dans le fait que c'est en train de peut-être se craqueler, j'espère. Mais 30 ans c'est incontournable, c'est inévitable, il n'y a pas d'alternative, etc. Ça produit des effets. Donc moi, je veux bien, je suis la première. Bon, j'imagine qu'on comprend d'après mon discours que je suis peut-être du côté marxiste et trotskiste, mais donc moi je veux bien qu'on aille essayer de renouveler ces paradigmes, mais il faut le faire et du coup des pensées comme plutôt côté Blanqui dans ce que tu en as dit peuvent nous aider à comprendre ce qui est à venir, mais il faut le faire, mais il me semble que c'est pas le moment de ce procès d'intention. C'est-à-dire que c'est précisément depuis 2 ou 3 ans que je trouve qu'il y a ce renouvellement, cette volonté de renouvellement. Et que c'est plus le moment. Il y a 3 ans, il y a 5 ans, j'aurais été complètement d'accord avec vous, bien que de ce côté-là. Et j'aurais la langue de bois, le machin, etc. Bon, on n'en est plus là. On n'en est plus là. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des dialogues qui se créent, il y a des ouvertures, et il faut les saisir pour ce qui nous arrive là, ce qui nous arrive là demain, qui va nous arriver demain dans la rue pour aller bloquer Blossac. On sera tous ensemble, on sera des anards, on sera des militants syndicaux traditionnels, on sera, enfin bon, etc., etc. Hein, donc je crois que c'est plus le moment de tenir ce genre de discours et qu'on rend pas service au mouvement qui est en train de se créer si on tient ce genre de discours.
Bonne conclusion. Voilà. Je suis d'accord.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Je vais pas parler de 2010, je vais juste reparler de 1810, 20, 30, c'est plus intéressant, je trouve. Mais bon, quoique. Non, je reviens à mon idée de faire les choses. Pour moi, ce qui s'est passé en 17 en Russie, ça n'a rien de comparable avec ce que KB et les autres ont tenté, même s'ils ont un peu foiré, parce que bon, ils ont un peu foiré au Texas quand même, mais bon, ils n'étaient pas nombreux. Pareil en 36 à Barcelone, bon, les anards, je veux dire. Par là, c'est que ce qui est considérable, je vais faire une comparaison entre le cinématographe et les premiers socialistes. C'est, oui, je fais court. Mais quand une chose se crée, une idée, un courant d'idées se crée, ou bien une technologie, on commence toujours par une période expérimentale. Voilà.
Est-ce qu'il y a une toute dernière question ? Ou alors nous allons vous inviter, s'il n'y a pas de questions, à prolonger avec la table de livres qui est proposée par la librairie La Belle Aventure, parce que je crois que c'est la meilleure façon de poursuivre le débat avec ces ouvrages. Merci encore à Éric Cazan, Nathalie Brément et Catherine Portevin. Et merci à vous.